France Culture.
Will Eisner, 1917-2005. La vie est un roman graphique. David Unger, Benjamin Hu. Will Eisner. Si ce nom ne vous dit rien, c'est que vous êtes passé à côté de l'un des maîtres les plus flamboyants de la bande dessinée. De lui, on sait généralement deux ou trois choses. La première, c'est qu'à l'époque de Superman et de Batman, en 1940, il invente le premier super anti-héros ou le premier anti-super-héros de l'histoire, The Spirit. Un détective qui revient d'entre les morts, un séducteur raté, au coup de poing et au sourire ravageur, plein de failles et d'autodérision. La deuxième, c'est que 40 ans plus tard, il associe littérature et dessin pour inventer un genre nouveau, inexistant dans les librairies, le roman graphique. Et quelques années après, il inaugure l'autobiographie dessinée. Ce n'est donc pas un hasard si le prix le plus prestigieux de la BD internationale porte son nom, les Eisner Awards. La chose est d'autant plus sympathique que Will Eisner en remporte trois de son vivant. Bienvenue dans l'univers d'un homme qui connut la misère et l'antisémitisme du Bronx des années 20, avant de s'en extirper par la force de son crayon et de ses qualités de conteur. Bienvenue dans l'univers de Will Eisner. Johann Sfar, vous avez connu Will Eisner. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles circonstances ?
Au sens biblique, on s'est connus pendant deux ou trois jours, pas plus. Je le connais depuis que je sais lire, parce que je suis né avec ses livres. On s'est rencontrés lors d'une visite qu'il avait fait d'abord à Paris, ensuite à Angoulême. On a déjeuné et dîné ensemble, et je l'ai interviewé pour Charlie Hebdo, parce que c'était peu de temps après le 11 septembre, et il m'avait parlé de sa perception de l'attentat des Tours Jumelles, en disant « Voilà, on a inventé les super-héros, et maintenant dans la vie, il y a des gens aussi cons que les méchants des histoires de super-héros. Qu'est-ce qu'on va faire ?» Et il me disait déjà en 2001, il me disait « Tu vois, on peut pas gagner. » Parce que pour un vilain de super-héros, le combat est fait pour durer 1000 ans, comme chez Hitler. Et l'importance de Will Eisner, c'est quelqu'un qui a inventé à la fois les bandes dessinées de super-héros dans les années 40, c'est quelqu'un qui a inventé le studio d'auteurs de bandes dessinées, c'est quelqu'un qui a inventé l'édition indépendante, et c'est quelqu'un qui a inventé ce qu'on a appelé la littérature dessinée ou les romans BD avec Contract with God. En tant qu'auteur juif, c'est quelqu'un qui a été un des premiers à travailler sur l'histoire de l'antisémitisme et l'histoire du judaïsme. Et quand on dit qu'ils ont inventé les super-héros, tous ces Eisner, ces Kirby, ils ont aidé à l'entrée en guerre des États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand on s'imagine que les bandes dessinées de cette époque étaient des bandes dessinées de propagande américaine, c'est tout à fait faux. C'était des bandes dessinées alternatives, faites par des gens venant d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, qui souhaitaient sensibiliser le public américain au fait que ce que faisait Hitler en Europe, ça les concernait.
Will Eisner voit le jour en 1917 à New York, dans une famille d'immigrés juifs. Sa mère vient de Roumanie. Son père est un peintre autrichien qui travaillait autant pour le théâtre yiddish que sur les plafonds des églises de Vienne. Qu'un juif ait eu un don particulier pour les chérubins amusait beaucoup son fils. L'enfance de Will n'est pas de tout repos. Son père vivote comme peintre en bâtiment, mais assez vite, la térébenthine le rend malade. Sa mère, sans emploi, s'occupe de leurs trois enfants. La famille déménage régulièrement dans des appartements de plus en plus petits de Brooklyn ou du Bronx. Will et son petit frère se font souvent traiter de sales juifs par les gamins du quartier. Ça se finit généralement à main nue. Mais Will se fait quand même des copains grâce au talent que lui transmet son père. Il dessine à la craie, à même le trottoir, le Spirit of St. Louis, l'avion de Charles Lindbergh, récent héros national.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'enfance de Will Eisner ?
Anne-Hélène Hoog, historienne.
Cet enfant va se trouver au sein d'une génération d'enfants d'immigrés. Ce sont des enfants qui sont impatients de se plonger dans la vie américaine. Ils aiment jouer au baseball, ils aiment jouer au football, ils aiment lire les comics. D'autant plus abondamment que nombre des enfants de familles pauvres vont vendre des journaux. Et donc, bien sûr, on sait que les immigrés étaient extrêmement friands de presse américaine, parce que d'abord, ils y apprenaient la langue, ils comprenaient ce qui se passait dans le pays. Or, ils étaient venus dans ce pays pour justement avoir un nouveau statut social, repartir à zéro, etc. Donc, on peut déjà situer l'enfance d'Eisner dans ces grands buildings new-yorkais, dans ces tenements, dans ces cités où essentiellement les immigrés sont rassemblés avec des nationalités mélangées, mais en tout cas sont obligés de vivre ensemble. C'est un milieu extrêmement vivant. La rue est d'un dynamisme incroyable et ces enfants vivent dans la rue parce qu'il n'y a pas de grands appartements. Et puis à partir des années 30, c'est l'immigration juive d'Europe centrale et orientale qui fuit le national-socialisme, fuit la guerre. Et cette montée des antisémitismes rageurs, en quelque sorte, en Europe, va tout d'un coup rendre très présent un antisémitisme que les gamins connaissaient plus ou moins dans la rue et dans leurs immeubles et à l'école. Ils voient arriver ces familles, ils voient arriver leurs cousins, leurs oncles, leurs tantes, et ils vont les héberger chez eux. Donc on imagine ces petits appartements surpeuplés, etc. Et c'est à partir de cette sensation, en fait, de la spécificité de New York comme ville qui accueille les immigrés, que Will Eisner va aussi construire ses récits graphiques.
Franchement, Eisner, c'est une personnalité incontournable du XXe siècle dans la bande dessinée.
Didier Passamonique, journaliste, spécialiste de bande dessinée.
Pourquoi ? Parce que dès le milieu des années 30, c'est lui et personne d'autre qui invente l'industrie du comic book. C'est le premier qui va organiser ce qu'on appelle un studio. Ce fameux découpage qu'on connaît aujourd'hui dans le travail des auteurs de bande dessinée américains, c'est-à-dire qu'il y en a un qui crayonne, l'autre qui encre, le troisième qui fait le scénario, le quatrième qui fait les couleurs, ce système de studio n'existe pas. Et ça va être tellement efficace que ça va complètement influencer l'industrie américaine d'après. D'autant que parmi les auteurs qui sont chez lui, il y a des gamins, quoi, qui s'appellent Bob Kane, qui va créer Batman quelques années plus tard, Joe Kubert. Et donc, il va créer un modèle économique qui va correspondre à cette industrie qui est en train de naître. Hein, parce que les comics avant 1938, c'est-à-dire la création de Superman, c'est rien, ça n'existe pas. C'est Superman qui va en faire une méga-industrie à partir des années 40, grâce aux émissions de radio, etc. Les premiers dessins animés de Superman, c'est 1940. Donc tout décolle entre Superman 1938, Batman 1939, Captain America 1940.
In those days, there were no schools, and I was hiring people.
Will Eisner.
À l'époque, il n'y avait pas d'école de comics, et j'embauchais des gens qui venaient d'autres univers. J'ai embauché un peintre en bâtiment, un illustrateur de livres pour enfants. Dans mon studio, j'étais comme un instituteur allemand. Quand on a commencé le studio Eisner-Eiger, d'ailleurs, mon nom était en premier car c'est moi qui ai mis les 15 premiers dollars dans l'affaire. Au début de la société, il n'y avait que cet homme et moi. On avait besoin d'une équipe, mais on n'avait pas encore assez d'argent. Donc je me suis retrouvé à dessiner 5 strips différents, sous 5 pseudos différents, dans 5 styles différents. J'avais 4 ou 5 pseudos. Willis Renzi, mon nom à l'envers. W. Morgan Thomas. Mais le meilleur pseudo était Spencer Steele. Je me disais qu'avec un nom pareil, on ne pouvait que réussir.
Eisner invente une kyrielle de personnages. Sheena, reine de la jungle, ou le faucon des mers. Mais il se méfie comme la peste des super-héros. Il reçoit d'ailleurs un jour les planches de deux jeunes dessinateurs qui lui proposent leur personnage. Un homme venu du futur, capable de voler en cape et en slip rouge. Eisner trouve leur dessin puéril, l'histoire abracadabrante, les dialogues fades. Il suggère aux deux hommes de revoir leur copie. Quelques mois plus tard, Superman cartonne. Le patron de Quality Comics demande à Eisner de travailler sur un héros identique. Eisner a besoin d'argent, il accepte à contre-cœur et crée Wonder Man, qui vaut à son client un procès pour plagiat et à Eisner une comparution comme témoin. Il jure qu'on n'y reprendra plus. Et lorsqu'il crée The Spirit, il s'arrange pour qu'il n'ait aucun super-pouvoir. Il s'arrange aussi pour conserver le copyright de son personnage. Les créateurs de Superman avaient vendu le leur 120 dollars et ne toucheront quelques petites royalties que 40 ans plus tard.
Le Spirit n'était pas un anti-super-héros. Je ne voulais pas en faire un super-héros. S'il a un masque et des gants, c'est à cause des éditeurs qui ont insisté pour qu'il ait un costume. Une nuit, ils m'ont appelé et m'ont dit « Vous avez un personnage ? J'ai dit, oui, c'est un détective à belle gueule. Ils m'ont demandé s'il avait un costume. Non. Ils m'ont dit, il doit avoir un costume sans quoi on ne peut pas le vendre. Alors j'ai dit, il a un masque. Ok, super, ils ont dit.
The Spirit est un détective qu'on croit mort après une bagarre mémorable. Le voilà qui se réveille dans son cercueil, s'en échappe, et devient le justicier nocturne, drôle et futé, qui joue du muscle pendant que patine son ami, le commissaire Dolan. L'une des spécificités du Spirit, c'est ce qu'on nomme sa splash page. Une première page, toujours différente, dont les contre-plongées, le clair-obscur et les inventions graphiques sidèrent. Le titre de l'épisode apparaît sculpté à même les buildings ou volant au vent sur du papier journal quand il n'est pas écrit en lettres de neige ou de pluie.
Pour moi, c'est avant tout une première page. Je trouve que ce qui est particulièrement engageant chez Will Eisner, c'est cette capacité à vous accueillir au seuil des histoires.
Emmanuel Guibert, auteur de bande dessinée.
Parce qu'indéniablement, il savait attraper le chaland avec une entrée en matière comme ça qui était toujours spectaculaire, lourde d'atmosphère. Et puis une fois tournée cette première page, on a ce personnage bleu à cravate rouge là, et on le suit dans des aventures qui sont assez hard-boiled quand même. Quand j'étais petit, je trouvais que les mandales dans le Spirit, elles résonnaient plus fort que dans la plupart des bandes dessinées que je pouvais lire par ailleurs. Quand un personnage se prenait un nion, c'était pas du pipeau. Et puis, il y a de la morbidité, certainement, puisqu'on le dit, le spirit est censé revenir d'entre les morts. Mais il y a du cadavre dans le spirit, pas toujours en très bon état. Et puis, il y a une histoire aussi assez magistrale qu'on cite volontiers. Je crois qu'elle est dans le recueil, là. D'un personnage qui veut confondre et il l'attire dans une sorte de trame de nuit, comme ça, qui louvoie... dans une, ce qu'on imagine être une sorte de banlieue new-yorkaise, mais qui est en même temps teintée de, des zones marécageuses des films d'horreur. Et dans le tram en question, il y a des gens assis qui ont l'air fatigués et rompus par leur journée. Mais le fait est que tous ces gens sont en fait des cadavres, qui sont sans doute ceux que ce personnage louche a semés sur sa route et que le spirit a collectés pour lui remettre le nez dans ses crimes. Et assis au milieu de ces cadavres, il y a le spirit qui guette les réactions de ce personnage. Et je dois dire que l'idée de cette chapelle ardente sur roue dans cet épisode m'avait beaucoup, beaucoup frappé quand j'étais gosse.
Il y a chez Eisner une virtuosité absolue, c'est-à-dire qu'il y a une aisance.
Johann Sfar.
Bon, il effectue des crayonnés, des mises en place, presque comme ferait un peintre, avec de grandes masses d'ombre. Il encre ensuite de manière extrêmement propre au pinceau. Je pense qu'à part lui, personne n'aurait su faire ça. Mais derrière ça, il y a la construction formelle des pages. Il y a le jeu, par exemple, sur les pages titres du Spirit, où on va toujours jouer sur la typographie qui dit la page. Il y a la contrainte dans les histoires du Spirit de tenir en 8 pages. Et je crois que Eisner aurait été le premier à dire... que le dessin n'était pas très important, que ce qui était important, c'était la narration, la structure, la mise en scène. Mais enfin, tout de même, pour parvenir au miracle de mise en scène qu'il fait, il faut un dessin. Et là, ce qui fascine le plus chez les auteurs américains, mais Eisner est au top de ça, manifestement, il travaillait beaucoup de mémoire ou d'après des croquis, et cependant, il est toujours très juste sur des choses aussi bêtes que le mobilier urbain, les prises électriques, les cafetières, les chaises. Je me rappelle d'une interview de Franquin quand j'étais petit, on lui disait « Mais pourquoi vous dessinez si bien les feux rouges et les poubelles ?» Il disait « C'est très simple, il suffit d'adorer dessiner les feux rouges et les poubelles. » Il y a un autre aspect qui est aussi passionnant, c'est le jeu avec le sexisme, avec le machisme, avec les figures de super-héros. Pourquoi est-ce que, quand on regarde les autres bandes dessinées de super-héros, c'est désespérément machiste, il n'y a rien à en faire. Quand on regarde les histoires du spirit de Will Eisner, même s'il y a des nanas en robe lamée et en chaussures à talons, etc., pourquoi on le sauve? Parce que dès le début, Eisner, c'est celui qui donne les bons dialogues aux personnages féminins. C'est celui qui met les personnages féminins en situation de décider ce qui va se passer dans l'action. Et son héros, le spirit, finalement, c'est un brave type qui n'a pas de super pouvoir. Tout le monde croit qu'il est mort, mais il est vivant. Et il prend des coups de poing et il finit plein d'eau dans un caniveau. Donc il y a une manière de laisser la place à des personnages féminins et d'ouvrir la porte à un jeu sur la figure du super-héros à laquelle lui-même ne croit pas trop dès le début. Donc il y a là-dedans quelque chose de yiddish. La littérature yiddish, qu'elle parte d'Europe centrale, qu'elle s'arrête chez nous par Romain Gary ou qu'elle aille aux États-Unis chez Saül Bellow, chez Philip Roth et tout ça, Will Eisner, il a sa place là-dedans. Il a sa place dans cette manière tragicomique de voir le monde qui consiste à mettre en avant des figures archétypales, très puissantes, ne pas avoir peur de la caricature du héros aux épaules larges, etc. Mais dès qu'il le met en scène, il joue avec. C'est-à-dire, même quand il fait du super-héros, c'est du super-héros qui bouge comme Buster Keaton, qui a des vestes trop grands pour lui, qui fait des mouvements qu'on pourrait presque voir en ombre chinoise. Je trouve ça vraiment unique dans l'histoire des bandes dessinées.
The spirit was my intention, really. My secret intention.
Mon intention secrète avec le Spirit, c'était d'écrire des nouvelles. Le plus important pour moi, c'est que les journaux m'avaient apporté un public adulte. Je n'ai donc jamais été en concurrence avec Batman ou Superman. Le Spirit était nécessaire aux éditeurs, mais sinon il n'était pas essentiel. Il y a des histoires dans lesquelles il apparaît à peine. C'est un figurant qui se contente de traverser la scène, comme au théâtre.
Il s'adresse à un public adulte.
Didier Passamonier.
Et ça change la donne, c'est-à-dire que du coup, on peut se permettre de faire des choses plus subtiles, avec des allusions, avec des sujets qui sont plus politiques. Et par exemple, en 1941, il y a cet incroyable épisode du Spirit qui raconte la venue à New York d'Adolf Hitler. Eisner nous montre Hitler dans le métro de New York en train d'entendre des gens qui se plaignent du gouvernement. Hitler s'approche d'eux. Leur dit, si vous voulez, on peut renverser ce gouvernement de corrompus, etc. Et là, tout de suite, il y a le réflexe de son interlocuteur qui dit, mais moi, je suis un bon patriote, je ne vais pas prendre des armes contre mon gouvernement. Et donc, il se fait expulser de son wagon. Et donc, il va voir des SDF en banlieue de New York. Et il en voit justement qui monte sur un tréteau et qui harangue ses copains en disant « C'est vraiment des pourris, il faut qu'on fasse quelque chose, etc. » Et même chose, il s'approche de lui, il lui propose de monter une espèce d'armée intérieure contre le gouvernement. Et là, il se fait rosser purement et simplement. Et on le voit là dans la boue, il a quatre pattes, il lève les yeux et là, il voit le Spirit. Et le Spirit l'aide à se relever, il dit « Mais mon pauvre monsieur Hitler, je suis pas sûr que vous avez la bonne méthode. Est-ce que vous avez lu Machiavel ?» Hitler répond « Oui, bien sûr, j'ai lu Machiavel, le prince, etc. Si vous aviez bien lu Machiavel, vous sauriez que le dictateur doit faire le bien du peuple. Et que si le dictateur fait le bien du peuple, ben, le peuple n'aura pas envie de se rebeller, et voilà, et il va rester au pouvoir. » Et là, Hitler se dit « C'est pas mal comme idée. » Et le voilà qui rentre en Allemagne. Il réunit son équipe, on reconnaît bien d'ailleurs Göring, la tête sinistre de Goebbels. Et à ce moment-là, il dit, changement de cap, au lieu de faire le mal, on va faire le bien. Et là, on voit Goebbels qui sort un Luger, qui l'abat froidement. Hitler est mort, il ouvre une porte, derrière la porte, il y a un sosie. Et il lui dit, toi tu te tiens à carreau, sinon tu vas suivre le même chemin. Eisner, en 41, on est en février 41. Les Américains ne sont pas encore entrés en guerre contre l'Allemagne. Ça n'interviendra qu'en décembre. Il a compris que le fascisme, c'était un système, c'était pas une personne. Tout le monde était en train de dire, mais c'est ce fou, le jour où il disparaît, tout ça va rentrer dans l'ordre. Il avait compris que c'était un système. Et il raconte ça dans une bande dessinée, dans un divertissement, en 41. C'est très très fort.
Here is the motion picture record released by the United States Navy of the havoc wrought by the Japs' sneak sky and sea raid on Pearl Harbor, America's mid-Pacific naval bastion.
J'étais au top de ma carrière, j'avais saisi ma chance, mais j'ai reçu une lettre du gouvernement me disant « Félicitations, nous sommes en guerre, nous avons besoin d'aide, voulez-vous nous aider à nous battre ?» J'ai été enrôlé. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai travaillé au Pentagone comme officier durant cette période. J'ai été enrôlé en 1942 jusqu'en 1946, 4 ans. Après quoi, j'ai repris le spirit, mais j'avais grandi. J'avais toujours refusé de faire des strips parce que c'est un genre où l'on ne mûrit pas. On ne change pas. On vous force à rester celui que vous étiez quand on vous a embauché. Regardez les strips aujourd'hui. Et donc j'ai repris le spirit avec des histoires plus mûres, plus réalistes, plus expérimentales. Le comics était un extraordinaire outil d'enseignement, et j'ai vendu l'idée à l'armée qu'on pouvait faire du comics pédagogique. Et j'ai fait des journaux, PS Magazine, Army Motors. J'ai créé un personnage qui s'appelait Joe Dope, et ça m'a ouvert de nouveaux horizons.
Activities of ordnance combat vehicle and artillery pools behind 1st and 3rd Army lines. Damaged vehicles of the 3rd Army are repaired by members of a heavy maintenance company. When tanks leave here, they are ready for combat down to ammo and rations.
Pour Will Eisner, il a très vite compris que les immigrés apprenaient la langue dans les comics.
Anne-Hélène Hoog.
Et on voit tout de suite que lorsqu'en 41, les États-Unis entrent en guerre, eh bien, ils vont conscrire, ils vont prendre tous ceux qui sont en âge d'aller combattre. Et ça veut dire qu'il y a évidemment des immigrés récents dans ce lot, et certains ne parlant pas l'anglais. Et pour Will Eisner et pour les gens de l'armée, il y a une évidence, c'est qu'il faut leur permettre d'être efficaces dans le combat. Et donc, on va faire des manuels de bande dessinée pour qu'ils puissent apprendre non seulement les procédures de l'armée, les procédures militaires, mais aussi les procédures techniques.
On l'appelle à l'armée.
Benjamin Herzberg, dernier assistant de Will Eisner.
Alors au départ, il essaye de ne pas trop y aller parce qu'il est quand même chef d'entreprise. Finalement, il va y aller. Et dès qu'il va arriver dans l'armée, il va se mettre à dessiner. Et on lui dit, mais tu ne veux pas faire quelque chose pour le journal là, de telle chose, etc. Et puis, de fil en aiguille, il commence à monter des projets au sein de l'armée sur comment est-ce que les soldats peuvent utiliser le matériel de manière plus efficace et moins dispendieuse pour que l'effort de guerre se passe mieux. Parce que vous pouvez avoir un tank qui compte $1 million, mais si le soldat il oublie de mettre l'huile exactement sur la bonne vis au bon moment, le tank il va plus marcher. Et donc pour pouvoir apprendre ça aux soldats, il y a tout un programme, ce qui s'appelle de maintenance préventive. Et Will Eisner va travailler là et va devenir un des piliers de la maintenance préventive aux États-Unis au niveau de l'illustration. Il fait tout un tas de posters, il invente un personnage loufoque qui fait que des bêtises qui s'appelle Joe Dope. Et puis, il invente d'autres personnages, dont des femmes absolument splendides, à la poitrine très développée, qui attirent l'œil du GI. Et donc, les généraux voient que ce que fait Will Eisner marche énormément. Donc, un général qui s'appelle le général Campbell va décider de le prendre auprès de lui au Pentagone. Et au niveau de l'armée, il va inventer un petit magazine qui est tout petit. Pourquoi est-ce qu'il est tout petit ? Parce qu'il est censé se mettre dans la poche de la salopette des réparateurs américains. Et ce petit magazine, qui s'appelle PS Magazine, va être quelque chose qui va être publié tous les mois sur la maintenance préventive dans l'armée. Et jusqu'aux années 70, il va en produire un par mois.
Eisner a parfois besoin de se documenter, à même le terrain. Il part en Corée en 54 et au Vietnam en 67. Il ne prévient d'ailleurs sa femme qu'au téléphone lors de son transit à Tokyo. Sur place, il évite de peu d'exploser dans un hélicoptère et revient bouleversé. Eisner est fondamentalement pacifiste. S'il met son talent au service de l'armée, c'est par souci des jeunes soldats qui souvent n'ont pas demandé à se battre. Certains ont pu se blesser ou mourir à cause d'un matériel défaillant ou d'une mauvaise compréhension de son fonctionnement. Les bandes dessinées d'Eisner existent pour leur éviter des accidents. Un jour, aux États-Unis, un vétéran de la guerre de Corée qui mâchouillait un gros cigare lui tape dans le dos. « C'est vous, Eisner ?»« Merci, vous m'avez sauvé la vie. En plein champ de bataille, mon tank n'avançait plus. Sans votre BD, j'étais foutu. »
pendant la guerre du Vietnam, il faisait des manuels
Johann Svarr.
Pour charger son fusil, pour pas abîmer son fusil, pour réparer le moteur de sa Jeep. Donc il a fait des manuels techniques en bande dessinée. Il y a des pages extraordinaires qu'on n'oserait plus montrer aujourd'hui parce qu'elles sont compliquées, où il explique qu'un soldat doit aimer son fusil autant qu'il aime son épouse. Donc voici comment on traite bien son fusil pendant les combats. Il faut l'enfermer dans un sac en plastique, il faut pas sa femme, son fusil. Il faut savoir le démonter, le remonter, il peut vous sauver la vie. Donc enfin, c'est une époque où la bande dessinée prenait toute la place et on pouvait la mettre dans tous les lieux de langage, y compris la pédagogie. Ce qui est curieux, c'est qu'on y revient aujourd'hui aux bandes dessinées pédagogiques. Aujourd'hui, ça paraît tout à fait normal quand on étudie le climat d'acheter Un monde sans fin de Christophe Blin parce qu'on se dit, tiens, c'est là qu'on va comprendre le climat. Bah, là-dessus, Eisner a été aussi aux avant-postes.
Entre le spirit et les romans graphiques, en réalité, il y a deux périodes.
Benjamin Herzberg.
Il y a une période où Will Eisner va être dans toute la bande dessinée didactique et pédagogique. Mais à partir des années 70, Will Eisner va se rendre compte qu'il y a une bande dessinée, ce qu'on appelle l'underground. Les fumeurs de hashish, les hippies de l'époque, se mettent à dessiner. Et en 71, il y a la première convention de bande dessinée à New York. Et Will Eisner devient complètement ébahi. Alors, on lui présente cet hurlu-berlu qui s'appelle Denis Kitchen, qui dessine des choses complètement ahurissantes, psychédéliques, etc.
Je faisais partie d'une génération qui s'opposait à la guerre au Vietnam.
Denis Kitchen, dessinateur et éditeur,
qui luttait en faveur des droits pour les gays, les droits des femmes, et on a ouvert la porte à beaucoup de dessinatrices de BD et des dessinatrices de couleurs. Robert Crumb sera probablement celui que vous connaissez le mieux.
Et
Harvey Kurtzman qui a créé Mad. Je suis allé à la première convention des BD à New York en 1971. Et Will Eisner était à la même convention. Il voulait me rencontrer. Je suis allé à sa suite dans son hôtel et il a commencé à me poser des questions. Il voulait savoir si c'était vrai qu'on permettait aux dessinateurs de conserver leur propriété intellectuelle sur leurs œuvres. Et est-ce qu'on leur rendait leurs planches? On leur permettait de toucher des royalties? Comme on est revenu à la convention, je l'ai pris et l'ai mené à une table où il y avait vraiment toute une expo de BD underground. Avant de prendre un exemplaire pour lui, et ben il en a pris un au hasard. Et c'était un exemplaire de Zap numéro 2 et il l'a ouvert sur une page scandaleuse par le dessinateur Asplay Wilson. Et il a été choqué par ce qu'il a vu. Quand je suis retourné chez moi, je lui ai écrit une lettre et je lui ai envoyé des exemplaires d'autres magazines underground. Et ces exemplaires, il les a trouvés beaucoup plus intéressants. Et là, je lui ai demandé si je pouvais réimprimer The Spirit. Et il a dit, mais pourquoi ces jeunes hippies seraient intéressés par ces vieux trucs? Et je lui ai dit, ben moi j'en ai tiré beaucoup de plaisir et je suis prêt à prendre ce risque en tant qu'éditeur. Il m'a demandé que je lui envoie un contrat pour acter. Je lui ai dit, Monsieur Eisner, moi, j'ai pas de contrat. Il a dit, je vous crois, mais qu'est-ce qui se passe si vous ou moi, on est renversé par un bus demain matin? Comment est-ce que ma femme ou votre épouse sauront quels sont nos accords? Et finalement, j'ai dit, Monsieur Eisner, je veux pas dépenser d'argent pour un avocat. Et il a dit, moi non plus. Moi, je vais vous envoyer un contrat. Ben, c'était probablement la première occurrence où un dessinateur donnait un contrat à un éditeur.
Tu lis beaucoup de bandes dessinées, toi?
Oui.
Quel est ton héros? T'as une héroïne, un héros?
Moi, je les aime tous.
Et toi?
Oui, je lis souvent Rahan.
Rahan?
Oui.
Et toi?
Tarzan.
Et toi?
Film de vampire.
Les films de vampires?
Oui, j'adore.
Et toi, tu en fais des bandes dessinées, toi?
Oui.
Ah bon? Comment il s'appelle ton héros que tu fais?
Il s'appelle Super A.
Super
A.
Et toi?
Je pense qu'on peut compter qu'on aura 70 dessinateurs présents et représentant 16 nationalités. Alors, il y a des grands noms, je peux vous en citer. Oui. Bien sûr, on a Franquin qui est là, le dessinateur de Gaston. On a Maurice, le dessinateur de Lucky Luke. Ceux-là sont très très connus. Nous avons des Américains, Joey Kubert, Will Eisner. Enfin, bon, je ne peux pas tous les nommer, il y en a 60. Hein.
En 75, il est invité au Festival d'Angoulême.
Didier Passamoni.
C'est la deuxième édition du Festival d'Angoulême. La première édition, le Grand Prix avait été donné à Franquin. La deuxième édition, c'est Eisner qui reçoit le Grand Prix. C'était exactement il y a 50 ans. Et il arrive au Festival d'Angoulême et qu'est-ce qu'il découvre? En fait, 75, c'est une année extrêmement importante pour l'histoire de la BD. Pourquoi? Parce qu'en France est publiée la Balade dans la mer salée de Hugo Pratt, c'est-à-dire le premier roman graphique à grand succès de la BD française, avec une forme de bande dessinée plus littéraire, plus artistique, où il y a des silences. Déjà, là, il tombe de sa chaise. Et puis, c'est à cette édition d'Angoulême, en 1975, que paraît le premier numéro de Métal Hurlant, où là, on découvre Moebius, Druillet, une bande dessinée, en gros, pour adultes, qui va donner, d'ailleurs, toute son importance au Festival d'Angoulême. Hein, c'est ce côté précurseur-là. Inviter un auteur américain en 1975, c'était pas si évident que ça. Et cette reconnaissance publique qui est faite à Eisner va changer sa vie. Et c'est pour ça que c'est tout à fait touchant, parce que il va créer ce qu'on appelle aujourd'hui le roman graphique. Il va convaincre un éditeur, qui est un petit éditeur, un Baron Press, de publier un contrat avec Dieu, et qui a un double intérêt dans l'œuvre d'Eisner. C'est que, d'abord, c'est un vrai roman graphique avec des chapitres, des personnages, une forme de narration qui n'est pas celle du comics du tout. Il n'y a pas de super-héros, ça parle de gens, et puis ça parle du Bronx qu'il avait connu enfant. Et donc, c'est un livre mémoriel, en fait. C'est un des premiers livres avant Maus de Spiegelman. Maus de Spiegelman, c'est 1980, qui parle de cette population juive dont personne ne parlait.
J'étais journaliste au Matin de Paris et critique de bande dessinée.
Jean-Luc Fromental, éditeur.
Et j'écrivais des critiques absolument dithyrambiques sur les gens des humanoïdes associés, donc Jean-Pierre Dionnet, Philippe Manœuvre, etc. Et ils m'ont dit « Oh, c'est vachement bien ce que tu écris sur nous, pourquoi tu viens pas travailler avec nous ?» Je suis arrivé dans ce journal, Métal Hurlant, et Dionnet est arrivé un jour avec une couverture d'un livre qui s'appelait « A Contract with God ». Et on m'a dit, voilà, il faut que tu publies ce livre, qui n'était pas encore traduit, donc, qui était déjà paru aux États-Unis depuis 2 ans, hein, en 78. J'ai trouvé ça absolument génial. J'ai vu un peu quels étaient les problèmes inhérents à la traduction, puisque il y a du yiglish dedans, c'est-à-dire que Will Eisner a publié, notamment dans la dernière histoire, puisqu'il y a 4 histoires hein, qui constituent le livre, beaucoup de ce parler juif américain new-yorkais qui mélange le yiddish et l'anglais, et qui est à peu près intraduisible, on peut pas le faire passer vraiment. Sauf que il se trouve que mon épouse est juive, ses parents se sont connus à Auschwitz, ce qui est quand même assez étonnant, et qu'elle vivait dans un milieu ashkénaze où les gens, avec leur accent polonais et leur phrasé extraordinaire, avaient une manière de parler qui est assez bien reproduite dans Rabbi Jacob, la fourrir, la pentir, etc., etc., et que donc on a tenté ce coup-là, c'est-à-dire qu'on a essayé de traduire ça comme ça, voilà. Et j'ai été absolument ébloui par ce livre, et donc je me suis dit, c'est un concept incroyable, ce concept de roman graphique, puisque le terme a été forgé par Will Eisner lui-même, hein, ça c'est authentique, c'est-à-dire que c'est lui qui a décidé de ne plus appeler ça un comics, mais de dire « a graphic novel ».
J'ai inventé le terme de roman graphique parce que j'étais désespéré. Je ne suis pas sûr d'ailleurs de l'avoir inventé. Au départ, j'ai écrit le contrat avec Dieu en 1976-77. et je voulais le vendre à un éditeur qui ne publiait pas de comic books. Donc j'ai appelé l'un des plus gros éditeurs de New York qui connaissait mon travail d'avant. Il était très occupé, pas très poli, et je lui ai dit « J'ai quelque chose d'inédit pour vous ». Il m'a demandé ce que c'était. Je lui ai dit « C'est un roman graphique ». « Oh, c'est très intéressant, je n'ai jamais entendu parler de ça. Venez me voir ». Je lui ai montré mon livre, il m'a regardé par-dessus ses lunettes, et il m'a dit « Vous savez, ça reste un comic, ne me faites pas perdre mon temps ».
Le vrai grand moment d'explosion, en tout cas de découverte pour moi d'Eisner,
Johann Sfar.
J'étais adolescent et c'était la publication de Contract with God, donc un contrat avec Dieu, qui a été pour moi, alors je parle à titre personnel et à titre émotionnel, qui a été pour moi un choc beaucoup plus grand que le Maus de Spiegelman. C'est-à-dire que le Maus de Spiegelman, j'ai tout de suite reconnu l'importance historique de l'œuvre, mais enfin ça m'a pas fait le dixième de ce que m'a fait Contract with God de Will Eisner, qui était, à la seconde où je l'ai lu, je me suis dit... Dans ma vie, je ne veux faire que ça. Et je ne crois pas y être encore parvenu à ce jour. Mais il y avait derrière ça le travail d'un auteur qui avait 40 ans de métier et qui décidait de faire de la littérature avec son métier d'illustrateur et d'auteur de bande dessinée d'action. Et c'était vraiment bouleversant.
Il faut d'abord établir le contexte.
Didier Passamoni.
Avant 1978, le judaïsme, ce n'est pas un sujet, vraiment. Dans la BD, ça n'en est pas un. L'élément déclencheur, c'est le procès Eichmann en 61. Où pour la première fois, on va avoir des témoins de la Shoah qui vont témoigner de façon publique. Et là, ça va éveiller les consciences. Et le feuilleton Holocauste en 1978...
Feuilleton télé.
Ouais. Et ça, ça va faire comprendre aux Américains toute la réalité de la Shoah. Et c'est cet environnement-là qui va provoquer Maus de Spiegelman, etc. Mais qui, également... 78, c'est pas par hasard que ça sort la même année que Holocaust, le premier roman graphique de Will Eisner, et c'est un contrat avec Dieu. Parce que, qu'est-ce que ça raconte, un contrat avec Dieu? Ça raconte l'histoire d'un juif pieux qui recueille une petite fille, et cette petite fille va mourir quelques années plus tard de maladie. Et là, ce juif pieux ne comprend pas. Dieu lui a donné la chance de pouvoir avoir un enfant, de l'élever, de l'aimer, de... Et il lui enlève cette chance. Et donc le contrat entre ce juif pieux et Dieu est rompu. Et ce juif va devenir le plus terrible des exploiteurs. C'est ça l'histoire. Mais derrière ça, il y a... si Dieu est bon, comment il a pu autoriser Auschwitz? C'est ça la question. Il y a là une profondeur philosophique très importante. Une interrogation qui est centrale. Et ça, c'est le premier roman graphique.
Avec le contrat avec Dieu, qui est la plus personnelle de ses œuvres, il va parler du décès d'une fille du même âge que la sienne.
Benjamin Herzberg.
D'ailleurs, le contrat avec Dieu commence par une sorte de déluge. Il pleut. Will Eisner avait une manière très particulière de dessiner la pluie. On appelle ça du Eisner Spritz, c'est-à-dire cette espèce de pulvérisation de la pluie sur le sol qui rebondit. Et les premières pages du contrat avec Dieu sont Frimme Hirsch, qui revient de l'enterrement de sa fille adoptive. Et... il pleure, mais en fait, c'est le déluge, c'est les cieux qui pleurent. Et c'est toute la douleur que Will Eisner n'avait jamais réussi à exprimer, car c'est quelqu'un qui n'exprimait pas beaucoup de sentiments personnels. Donc il avait une véritable façade enjouée, etc. Mais c'est quelqu'un qui était quand même très meurtri par des drames personnels, qui sont le décès de sa fille à 16 ans en 1970, puis des problèmes de santé mentale très importants pour son fils qui était un peu plus âgé, juste après. Mais ce qui se passe dans le roman graphique, c'est que Will Eisner a une conscience au décès de sa fille qu'il a besoin d'explorer ce qu'il y a à l'intérieur de lui et de communiquer ça.
Quand Will Eisner a créé le contrat avec Dieu, c'était la première fois aux États-Unis qu'une BD était traitée sous forme de livre.
Dennis Kitchen.
On n'avait pas d'album comme vous les connaissez en France. Donc le contrat avec Dieu, c'était quelque chose de remarquable. Cela a montré aux dessinateurs de BD américains qu'on n'a pas à être restreint à des récits brefs, à des petites nouvelles. Et donc beaucoup de dessinateurs aux États-Unis ont été profondément influencés et ça a changé leur carrière. Même Robert Crumb, qui n'était pas un grand fan de Spirit, Crumb a appelé ça un chef-d'œuvre et ça a changé sa vie. Donc, ça a eu une influence très profonde sur la BD aux États-Unis. Et maintenant, si vous entrez dans une librairie, il y a des départements assez importants de romans graphiques. Et rien de cela n'existait avant Will Eisner.
Alors, pour ce qui est de l'appellation de roman graphique, je trouve que la langue française n'a pas besoin de ce label. Lui, il a dû le forger aux États-Unis parce que les bandes dessinées là-bas s'appellent des comics et que, comme leur titre l'indique, elles sont censées faire rigoler.
Emmanuel Guibert.
Nous, on a une appellation beaucoup plus collée au sujet, qui est la bande dessinée, très descriptive. Les Chinois appellent ça les images enchaînées. La palme de l'appellation la plus poétique va peut-être aux Italiens avec leur fumette, et les petites fumées qui décrit donc les bulles dans lesquelles sont inscrits les textes. Mais nous, on n'a pas eu besoin du roman graphique. Il se trouve que l'appellation est flatteuse et que quand on s'est mis à publier de la bande dessinée épaisse, si j'ose dire, en noir et blanc, et qui peut avoir les qualités qu'on attend d'un bon roman, à ce moment-là, on s'est emparé nous aussi du label en disant « c'est pas de la bande dessinée, c'est du roman graphique ». Moi, je pense que je suis un auteur de bande dessinée parce que l'appellation me convient.
Selon moi, le plus grand génie de Will Eisner, c'est cet art de l'écriture et de la nouvelle. Moi, que j'aurais pas peur de mettre au niveau d'abord de grand novelliste, mais également d'homme de théâtre. Il y a une concision, il y a une recherche du personnage, et il y a aussi, et ça vient plus tard dans son œuvre, un goût de l'épopée familiale. Le 100 ans de solitude, il l'a fait 3 fois, d'une certaine façon. Et là, est-ce qu'il n'est pas, je vais dire un sacrilège, mais est-ce qu'il n'est pas presque meilleur que Philip Roth? Je pense aux reproches qu'on faisait à Kafka, qui était sa qualité. On reprochait à Kafka d'avoir une écriture quasiment administrative. Comme il venait des confins de l'Empire austro-hongrois, on disait « mais votre allemand est trop simple ». Je crois que c'est ce qu'on pourrait reprocher, et c'est sa qualité, à l'anglais de Will Eisner, c'est son écriture est tellement simple qu'elle est inoubliable. La façon dont il met en scène la mesquinerie et la cruauté de ces familles où il y a un conflit, où il y a un adultère, où il y a une haine qui se transmet d'une génération à l'autre, où il y a des difficultés économiques. Là où, selon moi, Will Eisner est davantage inoubliable, peut-être que Woody Allen, c'est que Woody Allen, comme pour s'excuser, comme par peur d'ennuyer le spectateur, se sentait obligé de mettre des blagues partout. Will Eisner, non. Will Eisner, il raconte comme si un oncle nous racontait l'histoire de notre famille.
I grew up with the pulps. That was my literary nutrition, if you will.
J'ai grandi avec les pulps. C'était ma nourriture littéraire. Et c'était une époque où les nouvelles dominaient la littérature, américaine et mondiale. En France, c'était Maupassant. Aux États-Unis, O. Henry. La nouvelle de Maupassant dont je me souviens raconte l'histoire d'un homme très laid qui se cherche une femme. Personne ne veut de lui, mais finalement il trouve une prostituée très pauvre et enceinte. Le pire selon Maupassant.
According to de Maupassant, was the worst.
Il l'épouse et puis un jour elle le quitte. Mais il se dit, je comprends, je suis très laid. Une semaine plus tard, il est assis sur un banc des Champs-Élysées et il la voit au bras d'un autre. Mais c'est un homme également très laid. Alors il va la voir, il lui dit, je comprends que tu m'aies quitté, je suis très laid. Mais lui, il est encore plus laid que moi. Elle répond, oui, mais toi, tu es d'une laideur ordinaire. Lui, il est d'une laideur extraordinaire. Ça, pour moi, c'est très subtil. Il y a des auteurs comme ça qui m'ont beaucoup marqué.
Pour moi, Will Eisner, c'était un peu un Alexandre Dumas quand il faisait le Spirit. C'est du feuilleton, c'est de l'aventure, on fait rentrer les gens dans une histoire, etc., et on innove.
Benjamin Herzberg.
Ensuite, quand on la retrouve dans les romans graphiques, pour moi, c'est une sorte de Balzac. Il fait une sorte de comédie humaine, il va traiter de la société, il va le traiter des trahisons, il va traiter de l'ascension sociale, il va traiter du suicide, il va traiter de l'aliénation. Dans toutes ces différentes bandes dessinées, il y a à peu près 17 romans graphiques qu'il fait pendant cette période-là. Et puis vers la fin de la vie, il passe de Balzac à Zola. Il dit « j'accuse ». J'utilise mon art comme une arme de communication pour communiquer sur l'espérance de la condition humaine et les dangers de la condition humaine également, et c'est comme ça qu'il va finir sa carrière en innovant encore une fois.
Lui qui a fait toute sa carrière dans la pédagogie,
Didier Passamonique,
c'est là qu'il se rend compte que le meilleur moyen de lutter contre l'antisémitisme, c'est de faire de la pédagogie et encore et toujours. Et donc, toute la fin de sa carrière, ça va être ça. Avec, par exemple, dans Fagin le Juif, une réflexion sur le stéréotype antisémite. Dans Fagin le Juif, il va prendre le personnage de Fagin dans Oliver Twist, de Dickens, qui est une véritable figure antisémite, qui est vraiment terrible. Et il va la retourner pour expliquer qu'en réalité, le comportement de Fagin est dû à l'antisémitisme ambiant du Londres de l'époque, et qui n'a pas le choix, au fond, que d'exploiter ses enfants dans le cadre de cette histoire.
Donc Eisner se dit, je vais me confronter à Dickens. Et donc, il invente une histoire où c'est l'histoire d'Oliver Twist, mais racontée par les yeux de Fagin. Et c'est Fagin, au départ, qui est dans sa prison, à la fin de sa vie, et fait venir Dickens, en l'accusant, en disant « Monsieur Dickens, vous avez raconté n'importe quoi sur ma vie, vous avez créé un préjudice, laissez-moi vous raconter pourquoi est-ce que je suis devenu comme je suis devenu. » Et on rentre à ce moment-là dans une histoire de l'émigration des Juifs en Angleterre, dans cette période, et on voit à ce moment-là un Fagin complètement différent, un personnage qui est un peu obligé de rentrer dans un certain pan de la société parce que la société ne lui laisse pas d'autres pans pour rentrer. En fond de scène, on a une bataille entre les Ashkénazes et les Séfarades qui, à l'époque, avaient plus le pouvoir avec Disraeli en tant que Premier ministre, même en Angleterre, et les Ashkénazes qui arrivent, qui sont beaucoup plus pauvres, etc. Donc ça, c'est l'histoire de Fagin, the Jew.
He was not religious. Il n'était pas pratiquant, mais c'était un humaniste. Il était très fier de son héritage juif.
Dennis Kitchen.
Je me souviens une fois, j'étais dans une chambre d'hôtel avec lui. Nous étions à Londres à attendre le début d'une convention. Je lisais un journal et le titre portait sur quelque chose, sur ce que le pape avait dit. Et ça m'avait beaucoup énervé. Et puis j'ai commencé une petite sortie contre les catholiques. Et après que j'ai terminé ma petite sortie, Will m'a dit, pense à toutes les bonnes choses que l'Église a faites, et tous ces sacrifices qu'ils font, les choses, ils vont travailler dans les hôpitaux, toutes les bonnes choses que fait l'Église. Et je me suis rendu compte que, tiens, voilà un homme qui, en tant que juif, était conscient que les Juifs ont été persécutés par l'Église catholique pendant des générations. Mais voilà, ils prenaient leur défense. Et je me suis rendu compte d'une chose. Il a dit, ne faites pas de discrimination à l'encontre d'une religion dans son intégralité, en raison de ce que le pape a dit. Et il a dit, Dennis, soyez gentil, ne soyez pas en colère. Et c'est un petit exemple du genre d'homme qu'il était.
L'antisémitisme est un phénomène de la civilisation occidentale.
Léon Poliakov, historien.
D'après la conception de l'Église médiévale, les Juifs sont le peuple déicide. Et en même temps, ils sont le peuple témoin qui doit attester par son abaissement même de la vérité du christianisme. Donc ils sont soumis à un statut infamant, ils n'ont pas le droit de posséder la terre, ils sont avancés de presque de la plupart des métiers, puisqu'on ne les accepte pas dans les corporations chrétiennes, et on ne leur laisse comme possibilité que les métiers infamants, et notamment le plein intérêt, le populaire, les AIC, et en leur qualité de prêteurs d'argent, et en leur qualité de déicides. Et ils étaient entourés d'un halo de légendes. Ils étaient censés dégager une odeur spéciale qui s'opposaient à l'odeur de sainteté, ils étaient censés tuer les petits enfants chrétiens. Quand il y avait une épidémie, c'est que les juifs avaient empoisonné les puits. Il était donc les boucs émissaires par excellence. Et c'est dans ces conditions que les juifs ont été entourés d'un halo de suspicion et de haine qui, d'une certaine manière, a survécu presque jusqu'à nos jours. Et la meilleure preuve, c'est ce qu'on a, la légende des sages de Sion, un des meilleurs outils de la propagande hitlérienne. C'est une version à peine laïcisée du mythe des juifs qui veulent la perdition de la chrétienté. Les juifs étaient censés former une société secrète qui ambitionnait le pouvoir mondial. Et cette légende, qui a énormément servi à la propagande hitlérienne, a encore réparu il y a une quinzaine d'années, lorsque, peu avant la mort de Staline, on a lancé l'histoire du complot sioniste impérialiste des blouses blanches qui veulent empoisonner les chefs du communisme et ainsi de suite.
Le complot, la véritable histoire du protocole des sages de Sion et son dernier roman graphique publié de manière posthume en 2005. Le protocole des sages de Sion, c'est un document qui, dans ce qu'il prétend, représenterait un rendez-vous entre un certain nombre de juifs qui comploteraient pour dominer le monde. Or, ce document est un faux. Ça a été prouvé plusieurs fois. Et dans les années 2000, ils voient que le protocole des sages de Sion est un peu partout, sur l'Internet, traduit en énormément de langues. Et là, il y a deux choses qui l'inquiètent énormément. La première, c'est la montée de l'antisémitisme. Et la deuxième, c'est ce qu'on appellerait aussi les fake news. Et Will commence à travailler sur cette idée avec moi, et on cherche comment est-ce qu'on pourrait approcher ce document. Il y a eu plusieurs démarrages à ce livre qui n'ont pas été concluants. Et finalement, on s'est arrêté sur l'idée d'essayer de montrer simplement quelle était l'histoire de ce livre et de mettre les faits en face du lecteur. Et comment est-ce que le livre se conclut ? Avec une synagogue qui est en train de brûler. Et donc, il y a quelque chose de vraiment universel dans ce que raconte Will Eisner dans cette histoire, et c'est ça qui le préoccupait. Et la montée de l'antisémitisme, pour lui, c'est le canari dans la mine. C'est-à-dire que c'est un signe du fait que notre époque devient une époque de contentieux, une époque d'accusation, une époque où les nouvelles ne peuvent plus être prouvées comme vraies ou fausses, et à ce moment-là, la rumeur enfle contre ceux qui sont visés.
Eisner est très courageux quand il se lance dans cette entreprise, d'abord parce qu'il faut expliquer à des gens qui n'ont pas envie de comprendre. Il faut condenser une histoire,
Anne-Hélène Hougue,
qui est extrêmement retors, extrêmement pas connue, sauf par les historiens de l'antisémitisme, comme Léon Poliakov et autres, donc il s'est inspiré aussi de ces travaux-là. Et puis, il faut le faire éditer au sein d'un univers où la bande dessinée, finalement, ne s'intéresse qu'à des choses drôles. Et sortir le protocole, c'est un peu, je dirais, l'œuvre de sa vie. Toute sa vie, il a connu l'antisémitisme. Quand il était jeune, il ne voulait pas croire que ça puisse l'empêcher de vivre. Et là, il va mettre ça sur la place publique. À un moment où ça n'intéresse personne, je trouve que c'est aussi une prouesse narrative.
Ce qui me bouleverse, c'est au-delà du travail pédagogique, au-delà du travail pour le plus grand nombre, c'est-à-dire qu'en vieillissant, il veut travailler sur Fagin, il veut travailler sur les protocoles des sages de Sion. Là, on voit qu'il s'invente, à raison, une mission éducative. Bon, moi, ce qui m'émeut le plus, c'est le travail qu'il fait sur son juif intérieur. On voit bien que la génération de Will Eisner, la même que celle de Woody Allen, ce sont des juifs qui ont été assez épargnés par la Seconde Guerre mondiale, puisqu'ils étaient aux États-Unis, donc ils pouvaient avoir l'écho de l'orage, comme il disait. Mais enfin, il s'éduque lui-même quand il travaille là-dessus. Il a un souvenir très vivace de l'antisémitisme américain, du moment où sa famille et lui, comme chez Philip Roth, n'avaient pas le droit d'intégrer certains clubs, n'avaient pas leur place dans certaines activités, mais enfin, ils n'étaient pas déportés. Donc il travaille sur lui-même. Et je crois qu'à la fin de sa vie, c'était essentiel pour lui de mener ce combat perdu, c'est-à-dire lutter contre l'antisémitisme. Et en particulier, lui qui était un homme du livre, il était obsédé par cette histoire du protocole des sages de Sion, parce que c'est un livre dont tout le monde sait que c'est un faux. Il n'empêche que Staline l'a réutilisé, Nasser l'a réutilisé, aujourd'hui les islamistes l'utilisent, ça reste un best-seller au Caire, et on ne peut pas se battre contre une fake news quand elle fait tellement plaisir aux gens. Et ça, c'est quelque chose de désespérant. Je crois que quand on travaille dans les livres, notre seul pouvoir s'arrête au livre, mais il peut consister aussi à lutter contre les livres qui sont objectivement des livres de poison.
Il y a une rencontre à laquelle j'assistais, je crois que c'était en 2002, entre Will Eisner et Johann Sfar. Et c'était une interrogation sur la question de la religion, et notamment de l'interdit de l'image qui était lié à la représentation de Dieu, dans la religion juive notamment. Et Eisner a eu cette réflexion, c'était de dire, mais l'écriture elle-même, quand on regarde les origines de l'écriture hébraïque, en fait, ça vient du phénicien et on remarque qu'en réalité, ce sont des images. C'est le A, par exemple, c'est un taureau inversé. Et donc, il dit que le texte sacré lui-même est dessiné. Et justement, il y a un épisode très peu connu de Will Eisner qui est paru dans un livre sur les droits de l'homme, qui parle un peu de ça. Il montre un dictateur qui a décrété que tout dessin est complètement interdit. Et l'histoire se termine parce qu'un jour, un de ses gardes le voit en train d'enfiler sa chemise et sous sa chemise, il voit les tatouages que le dictateur avait sur le corps. Et comme l'image est interdite, il tue le dictateur. Et la chute, c'est que le sang se répandant sur le sol fit lui-même un dessin.
Il y a un dessin qu'il a fait qui est très obscur. Cela montre Will au milieu du désert, à côté d'une étagère de BD, à attendre patiemment. Et par-delà l'horizon, les gens commencent à venir. J'aime ce dessin parce que c'est quelqu'un qui était en avance sur son temps et qui s'est rendu compte qu'il faisait quelque chose qui prendrait du temps avant que le public ne s'en rende compte. Et il était prêt à être patient. Et finalement, ce public est arrivé. Et maintenant, la BD est très populaire aux États-Unis et dans le monde entier.
C'était Will Eisner, La vie est un roman graphique. Merci à Johann Sfar, Anne-Hélène Hogg, Didier Passamonic, Emmanuel Guibert, Benjamin Herzberg, Denise Kitchen et Jean-Luc Fromental. Merci également au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, à Mathilde Kinlen, Adam Leibovitz, Sandrine Adas, Hélène Verlet, Anaïs Kien, Déborah Munzer. Prise de son, Sébastien Huel, Manon Houssin, Grégory Wallon, François Saint-Jour. Mixage, Manon Houssin. Documentaliste, Anne Delaveau. Traduction, Michel Zlotowski. Attaché de production, Sylvia Fabre. Chargé de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Christine Bernard, Emmanuel Laurentin. Un documentaire de David Unger, réalisé par Benjamin Hu.